Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau volet des crimes passionnels. Ce soir, nous partons pour l'année 1950. Ce soir-là, à la Sorbonne, on accueille un colloque qui rassemble des sommités de la médecine légale et de la psychologie criminelle. Bienvenue, Histoire Nocturne. Le 25 avril 1950, le grand amphithéâtre de la Sorbonne, avec ses fresques pompeuses, présente un aspect plus solennel que d'habitude. Une centaine de personnages extrêmement graves ont pris possession des gradins. Il n'y a pas besoin de les observer longtemps pour se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'étudiants. La plupart d'entre eux ont des cheveux blancs ou fortement grisonnants, d'autres arborent une calvitie prononcée. En face, sur l'estrade, ont pris place une dizaine d'autres messieurs qui affichent un air des plus grandes gravités encore. C'est que les circonstances sont tout à fait exceptionnelles. Ce 25 avril vient de s'ouvrir à Paris le premier grand congrès international de criminologie depuis la guerre. Des quatre coins du monde est arrivé tout ce que la médecine légale et la psychologie criminelle comptent de sommités. Il est 11 heures du matin. La tribune est occupée par un médecin français. Son âge vénérable n'empêche en rien la fermeté de ses propos. Il est en train de s'en prendre à l'orateur qui l'a précédé. Mon éminent collègue vient de vous dire que la prédisposition anatomique au crime résultait d'une lésion au niveau du troisième ventricule du cerveau. J'ai le regret de vous dire que ce n'est pas exact. Il peut s'agir que d'une lésion au niveau du deuxième ventricule. Cette prodigieuse nouvelle fait passer un frisson dans l'assistance. Chacun comprend immédiatement la portée de la controverse. Il y a des murmures remplis d'excitation. On sent que deux camps sont en train de se former, les tenants du deuxième ventricule et les partisans du troisième. Le professeur déplie une planche en couleur représentant le cerveau humain et commence un long exposé rempli de termes compliqués, ce qui dans le fond est normal, un savant se devant d'employer des termes savants. Et c'est à cet instant précis qu'a lieu l'extraordinaire. Dans le couloir, de l'autre côté de la porte vernissée, un remue-ménage se produit. Il y a des cris, puis cinq détonations, puis un bruit de chute. L'orateur, désorienté, s'arrête au milieu de son exposé. Après un moment de flottement, les plus courageux des congressistes se lèvent pour voir ce qui se passe, suivis du reste de leurs collègues. Un des criminologistes ouvre la porte et recule horrifié. Par terre, un homme d'environ 25 ans gémit faiblement. Il perd son sang en abondance par plusieurs blessures. Un peu en retrait, un autre jeune homme s'appuie contre un mur. Il est très brun et très pâle. À la main, il tient un revolver encore fumant. Il se dirige vers celui des congressistes qui se trouve le plus près de lui et lui remet son arme. Il semble tout à fait maître de lui.
Voilà, c'est fait. Je regrette rien.
Le criminologiste reste hébété. Les bras ballants, sans prendre le revolver que lui tend le jeune homme, et s'écrie comme s'il venait tout à coup de comprendre.
Mais mon Dieu, c'est un crime!
Plusieurs congressistes qui sont médecins légistes se penchent sur le blessé. Et pour une fois, leurs avis sont concordants. Aucun centre vital n'a été atteint. Le blessé peut s'en tirer à condition de faire vite, car l'hémorragie est importante. D'autres de leurs collègues sont allés téléphoner à la police, qui arrive sans tarder. Le blessé est emmené en ambulance, tandis que le meurtrier, menotté au poignet, est conduit au commissariat. Les savants commentent encore quelques l'extraordinaire événement qui vient de troubler leur colloque, puis, comme les cas particuliers, si impressionnants soient-ils, doivent s'effacer devant les vérités générales et ils en reviennent bien vite au point où ils en étaient restés.
Je disais donc, chers collègues, que c'était au niveau du deuxième ventricule. Ah, permettez, il s'agit bel et bien du troisième ventricule, mais si.
Au commissariat du 5e arrondissement, le commissaire Martin commence sans tarder l'interrogatoire du suspect.
Vous vous appelez comment ?
André Moresco.
Mais c'est pas français.
Non, je suis roumain. Je suis né à Bucarest en 1925. J'ai quitté mon pays en 1947.
Profession ?
Étudiant à la Sorbonne, je prépare une licence de philosophie.
Le jeune homme regarde intensément le commissaire. Il a des yeux fiévreux et quelque peu inquiétants, les joues creuses, un teint blanc que force la noirceur de ses cheveux. Il parle d'une voix passionnée.
Je ne regrette rien de ce que j'ai fait, mais je tiens à vous dire tout de suite que j'ai agi que par aversion métaphysique.
Le commissaire Martin met quelque temps avant de réagir. Il vient de terminer une enquête particulièrement difficile, à l'issue de laquelle il a pu mettre sous les verrous la bande Anenes, un groupe de redoutables perceurs de coffres-forts. Alors évidemment, le contraste est brutal.
Vous avez bien dit aversion métaphysique ?
André Moresco s'anime plus encore.
Oui, un dégoût philosophique, si vous préférez. Je n'ai fait que supprimer un être philosophiquement néfaste. D'ailleurs, vous n'avez qu'à faire votre enquête. Tous ces professeurs vous confirmeront que Pavel Kovetsky rejetait en bloc l'œuvre de Sartre et l'existentialisme.
Vous voulez dire que vous avez tiré sur lui uniquement parce qu'il n'aimait pas Jean-Paul Sartre ?
Le jeune homme répond sans hésitation d'un ton de défi.
Absolument !
Le commissaire Martin décide d'arrêter là l'interrogatoire. Il n'obtiendra rien de plus de ce Moresco. Il s'agit de garder la tête froide, de mener une enquête sérieuse, aversion métaphysique ou pas, existentialisme ou pas. En ce milieu de l'année 1950, il est incontestable que l'existentialisme est à la mode. Il n'a d'ailleurs bien souvent qu'un rapport lointain avec la pensée sartrienne. C'est le mot sous lequel la jeunesse exprime à la fois son appétit de vivre, sa crainte de l'avenir et son angoisse, qui sont de toutes les générations et de toutes les époques. Alors, pense le commissaire Martin, c'est peut-être un prétexte commode pour dissimuler un automobile. Quoique cette idée de choisir un congrès de criminologie comme cadre d'un meurtre semble effectivement le fruit d'un esprit déséquilibré. De toute façon, le commissaire décide de mener l'enquête à sa manière, c'est-à-dire traditionnellement. Il commence par se rendre au domicile d'André Moresco, une chambre d'un immeuble vétuste sur la montagne Sainte-Geneviève, en plein quartier latin. La perquisition s'avère fructueuse. Elle semble confirmer en effet l'image que veut donner de lui-même le Roumain, celle d'un jeune philosophe intransigeant et exalté. Au pied du lit des faits, le sol est jonché d'ouvrages théoriques, l'œuvre complète de Sartre et d'autres du même genre. De toute évidence, c'était ses seules lectures. Et surtout, sur la petite table qui servait de bureau à l'étudiant, le commissaire trouve une lettre posée bien en évidence.
Je reconnais avoir lu l'intention de tuer Pavel Kovetsky, mon condisciple à la Sorbonne. J'ai agi avec préméditation, une longue préméditation. Je suis prêt à recevoir la peine que je mérite, mais j'affirme n'avoir agi qu'en vertu des considérations philosophiques.
Le commissaire emporte la lettre qui va constituer un des éléments principaux du dossier. Avouer par écrit sa préméditation n'est pas commun, surtout quand on sait quelles circonstances aggravantes cela constitue auprès des juges. À moins, justement, que cela ne soit interprété comme une preuve de déséquilibre mental et donc d'irresponsabilité. En quittant la petite chambre sordide, le commissaire sait qu'il se trouve en face d'un criminel presque unique en son genre. Ou c'est un exalté d'une nature peu banale qui tue un de ses camarades pour une simple divergence philosophique, ou bien c'est un assassin particulièrement machiavélique qui a préparé toute une mise en scène dans le but qu'on le croit fou. Une personne a peut-être la réponse à cette question, la victime elle-même. Le commissaire Martin a fait prendre des renseignements à son sujet. Pavel Kovetsky est bien étudiant à la Sorbonne. Il suit les mêmes cours qu'André Moresco et il a quitté son pays en même temps que lui. Mais il est loin d'être en état de parler si cela arrive un jour. À l'hôpital, les médecins sont réservés.
L'opération a réussi, mais il n'est toujours pas sorti du coma. Nous ne pouvons pas nous prononcer. Vous comprenez, commissaire ?
Alors le commissaire continue son enquête. La concierge de la montagne Sainte-Geneviève lui a dit qu'André Moresco était un habitué du tabou, la fameuse cave de Saint-Germain-des-Prés. Il s'y rend sans tarder. Le nom d'André Moresco ne dit rien aux employés, mais sa photo produit un résultat immédiat. Une jeune serveuse le reconnaît tout de suite. Et elle dit qu'il a le surnom suivant, Zizi l'existentialiste.
Zizi l'existentialiste, dites-vous ?
La serveuse sourit et dit comprendre la surprise du commissaire. Puis elle poursuit en disant qu'il affirmait à chaque fois qu'il fallait tuer tous ceux qui ne pensaient pas comme vous. Puis elle ajoute que des originaux, il n'y a que ça ici. Puis elle conclut en disant qu'elle a toujours pensé que Zizi l'existentialiste était vraiment fou. En regagnant son bureau, le commissaire est troublé. Il aurait plutôt parié pour un simulateur. Mais tous les résultats de son enquête montrent en Maresco un déséquilibré, un être à la tête peu solide à qui quelques idées ont tourné l'esprit. Le lendemain même, son impression est confirmée par l'entretien qu'il a avec le psychiatre chargé d'examiner le meurtrier. Celui-ci, un homme d'âge respectable, faisait évidemment partie du colloque de la Sorbonne. Il a été témoin du drame. Pourtant, ce n'est pas la cause de son excitation quand il rencontre le commissaire. Il semble même avoir tout à fait oublié que le crime s'est déroulé à quelques mètres de lui.
Commissaire, nous sommes en présence d'un cas d'un grand intérêt. J'ai interrogé André Maresco dans sa cellule. Il m'a appris qu'il avait fait une chute de cheval à l'âge de 6 ans. Il s'est blessé à la tête. C'est donc la raison pour laquelle j'ai ordonné la série la plus complète possible d'examens du cerveau. Vous saisissez ? Mais vous pensez qu'ils pourront nous livrer la vérité ?
Le médecin réplique comme si c'était une évidence.
Mais bien sûr, ces examens nous diront si la lésion a eu lieu dans le deuxième ou le troisième ventricule. Oh !
Le commissaire Martin ne se rend pas très bien compte de l'importance de cette précision. Mais il remercie tout de même le médecin. Tout ce qui apparaît à son niveau, du moins, c'est qu'André Moresco, dit Zizi l'existentialiste, semble effectivement très perturbé mentalement. En fait, seul Pavel Kozevski, la victime, pourrait le confirmer. Mais aux dernières nouvelles, il est toujours dans le coma et son état ne s'améliore pas. S'il meurt, il y aura peu de chances de connaître la vérité. Heureusement, 10 jours plus tard, le 5 mai, le commissaire reçoit un appel en provenance de l'hôpital.
Commissaire, le blessé de la Sorbonne est hors de danger. Il est sorti du coma. Vous pouvez l'interroger.
Inutile de dire que le commissaire Martin se précipite à son chevet. Pavel Kozevski n'est pas brillant. Il est terriblement pâle. On voit qu'il a frôlé la mort de près. Le commissaire s'assied avec précaution, en prenant soin de ne pas déplacer le flacon de transfusion.
Êtes-vous capable de parler ?
Le blessé fait oui de la tête.
Pourquoi Maresco a-t-il voulu vous tuer ?
Pavel répond d'une voix faible mais sans hésitation.
À cause de Vanna. Oui, à cause de Vanna.
Le commissaire sent qu'il touche au but.
Qui est Vanna ?
Sa maîtresse. Je les ai retrouvés à Paris tous les deux. J'ai toujours été lié avec Vanna. Pour moi, elle n'est qu'une camarade. Seulement, André a toujours été d'une jalousie féroce.
Le blessé se laisse tomber sur son oreiller. L'effort qu'il vient de faire pour parler l'a épuisé. Le commissaire est conscient qu'il ne doit pas prolonger longtemps l'entretien.
Juste une question, Kovetsky. Ce que vous me dites, c'est une impression ou bien vous en êtes sûr ?
De nouveau, le blessé s'agite.
J'en suis sûr. Il m'a dit au moment de tirer, tu vas payer ta trahison. Vanna ne sera jamais à toi.
Mais il n'a pas parlé de divergence philosophique ?
Pavel Kozevski a un sourire faible.
Il n'aurait jamais tiré pour cela. Nous n'étions pas d'accord, mais c'était plutôt un sujet de plaisanterie entre nous, vous comprenez ?
En quittant l'hôpital, le commissaire Martin pousse un grand soupir de soulagement. Son intuition ne l'avait pas trompé. André Maresco était bien un simulateur. Il a déguisé un crime passionnel en crime de déséquilibré. Une longue préméditation, avait-il écrit dans le mot qu'il avait laissé dans sa chambre. C'est le moins que l'on puisse dire. Cela faisait des mois, des années qu'il y pensait. Celui qui se faisait appeler Zizi l'existentialiste s'était appliqué jour après jour à donner de lui l'image d'un jeune homme exalté et dérangé. Jusqu'à la touche finale, le trait de génie. Attirer son ami à la porte du congrès de criminologie pour tirer sur lui. Après tout cela, comment ne pas le prendre pour un fou ? Le commissaire fait venir André Maresco dans son bureau. Le jeune étudiant a toujours son regard fiévreux et passablement inquiétant. Le commissaire attaque l'interrogatoire.
Sachez que Pavel Kozevski a parlé, je sais pourquoi vous avez agi. À cause de Vanna, votre maîtresse.
Mais le criminel n'a pas la réaction attendue, il se contente de hausser les épaules.
Vanna ? Vanna n'était qu'un prétexte, je lui ai dit. J'ai tiré, je vous l'ai dit, j'ai tiré sur Pavel uniquement par aversion métaphysique. Oh !
Et le commissaire Martin a beau insister, il ne peut en tirer davantage. L'interrogatoire de Vanna ne donnera rien non plus. Elle assure qu'il n'y avait jamais rien eu entre Pavel Kozevski et elle. D'ailleurs, si André était jaloux, il n'a jamais paru soupçonner spécialement son camarade. En revanche, elle confirme qu'il tenait souvent des discours philosophiques exaltés. Cette fois, l'enquête est terminée. Le commissaire Martin est moins affirmatif en ce qui concerne Maresco. Est-il un simulacre ? Est-il sain d'esprit ? Il ne sait plus très bien. De toute manière, ce n'est pas à lui d'en décider. C'est au tribunal. Le procès d'André Maresco s'ouvre en décembre 1950. L'attitude de l'accusé, qui proclame haut et fort ses convictions philosophiques, crée une certaine sensation. Les juges et les jurés n'y voient pas très clair. En fait, ils attendent le témoignage du psychiatre pour se faire une opinion. Et ce dernier est on ne peut plus affirmatif. André Maresco ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. L'origine doit en remonter au choc sur la tête qu'il a eu à l'âge de 6 ans. De toute façon, qu'il s'agisse d'exaltation philosophique ou de jalousie maladive, le résultat est le même. André Maresco a une personnalité paranoïaque. Le président pose bien entendu la question que tout le monde attend.
Vous ne pensez pas qu'il ait pu simuler la folie pour se faire déclarer irresponsable ?
La réponse du praticien est nette. Le fait de simuler la folie pendant des années est déjà un symptôme inquiétant. André Maresco a été déclaré irresponsable par les jurés de la Seine et a pris la direction d'un asile psychiatrique. Il y avait pourtant un point que le médecin n'avait pas précisé devant le tribunal. L'accusé présentait-il une lésion au deuxième ou au troisième ventricule du cerveau ? Mais dans le fond, cela n'avait peut-être pas une réelle importance.
C'était Histoire Nocturne. Retrouvez toutes ces affaires dans Les Crimes Passionnels, volume 2, un ouvrage écrit par Pierre Belmar et Jean-François Namias aux éditions Kalman Lévy. Je vous dis à très vite. Bye bye.